Bonjour, je suis JUP, E accent aigu, juste un peu énervé.
Bonjour, pas de nom, pas d'indication de qui je suis, parce que peu importe, ma voix est un peu celle de tous et de personne à la fois. C'était juste une impression, à force d'écouter le répondeur de Daniel. Un petit coucou en passant, tous ceux qui écoutent. Eh bien quand même, il n'y a qu'une idée qui me vient en tête. La colère monte. La colère monte vraiment. Et ça serait peut-être tant que certaines personnes qui dirigent ce pays s'en inquiètent, parce que c'est quand même inquiétant. Ça peut être aussi très réjouissant. Et puis c'est les élections bientôt. On aura des petites élections, mais des élections. Et une élection, ça vaut son poids. Avis à la population. Allez, à bientôt. Bisous.
Je viens d'écouter votre reportage avec cette femme qui m'a vraiment choquée. Donc, je voulais simplement dire que j'ai vraiment honte d'être française. Je ne pensais pas qu'à Paris, on travaille encore entouré de rats. Et vraiment, pour la capitale qui se dit la plus belle au monde, je trouve ça vraiment, c'est les misérables, tout simplement. Et j'aimerais simplement dire que je pensais pas que ça puisse exister. Et entre autres, je suis aussi, parce que j'ai écouté l'abbé Pierre l'autre jour, et je trouve que c'est pareil, c'est-à-dire ce vieil homme qui a 92 ans est obligé de se fâcher pour que les gens se réveillent, pour que les gens, je sais pas les Français, mais ils sont où? On les voit où? J'ai l'impression qu'ils sont complètement drogués, aseptisés, avec leurs ordinateurs, parce que c'est pays des droits de l'homme, pays de, et qu'une femme est obligée de travailler entourée de rats dans cette gare de Lyon où tout le monde passe, enfin, je sais pas, c'est pas possible. C'est vrai que je suis très en colère et vraiment, moi, heureusement, j'ai double nationalité, j'habite en Suisse, parce que vraiment, j'ai honte d'être française. J'ai vraiment honte d'être française.
Je viens d'entendre le témoignage de Latifa, alors là, je demanderai à Mermet si de temps en temps on pourrait avoir, je sais pas, un avis de sociologue ou autre pour nous dire jusqu'où on va, jusqu'à quand on va se la fermer et qu'on va continuer à accepter tout ce qui se passe là, les fermetures d'emplois, fermetures d'usines dans le nord, etc., etc., quoi. Voilà, qu'on ait un brin d'espoir pour dire quand l'être humain il va relever la tête, quoi. Parce que là, je me demande jusqu'où on va aller, quoi. C'est là. C'est. Alors je dis à Latifa que ce jour-là, bah, si jamais on se retrouve tous ensemble, bah, je serai à ses côtés, parce que je suis complètement d'accord avec ce qu'elle dit. Mais et en plus, je voudrais quand même rappeler aux auditeurs, elle vend des livres, elle vend de la culture française. Voilà. Allez, bon courage et merci. Et puis ça continue, qu'il y ait des témoignages comme ça. Je suis ému. Allez, au revoir, à bientôt.
Allô, c'est Jacqueline Cerisier dans le Nord. J'habite le Nord à proximité de Valenciennes et j'étais particulièrement intéressée par le reportage aujourd'hui. Alors, il y a quelque chose qui est ajouté au sujet de la visite de Chirac, c'est que la direction d'une boîte des environs de Valenciennes a accepté de différer de quelques jours l'annonce de la fermeture de sa boîte, pour que les ouvriers n'aient pas la tentation de perturber le Chirac Show. Et justement, suite à au moment de votre émission, je lisais la presse et figure une étude sur le chômage dans la région. Alors, pour ce que disait l'interlocuteur tout à l'heure, pour 2003, les statistiques officielles font état de 19 446 personne licenciée pour raison économique dans le Nord-Pas-de-Calais. Si bien qu'on recense 201 045 chômeurs, et parmi ceux-là, 67 384 qui sont au chômage depuis un an et plus. Et on annonce dans les mois qui viennent plusieurs milliers d'emplois jeunes qui vont arriver au terme de leur contrat de 5 ans. Alors malheureusement, le pauvre gars d'Aubourdin a peu de chance de trouver quelque chose dans la région. Alors je voudrais dire aussi à la Rombière qui a été outrée tout à l'heure du procès de Chirac qu'on a entendu hier, qu'elle a peur de se faire du mal et écouter de telles horreurs sur un personnage si honnête et si digne d'estime. les hausses de tension, c'est mauvais pour sa santé. Alors moi, je lui donne un conseil, c'est de fermer son poste de 17h à 18h et d'en profiter pour tricoter des chaussettes pour les SDF.
Et voilà, toc. Les messages sur le répondeur de la Basse J'y suis, suite à l'émission d'hier, beaucoup. L'histoire de Latifa, un reportage de Thierry Scharf à la gare de Lyon, les conditions de boulot dans ce magasin Maxi Livre qu'elle nous a raconté, et puis l'histoire des licenciés du Nil-le-Vert à Haubourdin et la visite de Pascal qui avait rencontré notre président de notre République avec un manque de suite parce que promesse lui avait été faite, on va s'en occuper, c'était en octobre, toujours pas de suite. Voilà vos réactions. Alors on nous dit, il faudrait faire venir un sociologue pour savoir, etc. Eh ben ça tombe bien, aujourd'hui, sociologue, on en a deux, Stéphane Beau et Michel Pialou. Et pourquoi ça? Parce que vous savez quelle est l'urgence, hein, la priorité pour 2004, c'est la lutte contre le chômage. On nous promet pour dans les mois qui viennent une loi de mobilisation pour l'emploi, 137 900 chômeurs de plus en 2003. Savent-ils, ces nouveaux venus dans le chômage, qu'ils ont une histoire, que le chômage a une histoire. Gilles Le Balbastre, qui est réalisateur de films et documentaires, a sorti, il y a 2 ans, je crois, un film particulièrement intéressant intitulé « Le chômage a une histoire ». On va réécouter les commentaires et les documents extraits de ce film et les analyses que, justement, Stéphane Beau, Michel Pialou en ont fait. Et puis, on a aussi avec nous Serge Halimi, que vous connaissez, qui est journaliste au Monde Diplomatique, et Gilles Balbastre, donc le réalisateur « Le chômage a une histoire ». Auparavant, cependant, d'autres messages sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Hey, salut à tous. Un petit message dans le cadre de la campagne pour les régionales. Là, on va recevoir, ou certains l'ont déjà reçu, une lettre T qui vient du Front National, c'est-à-dire qu'ils mettent à l'intérieur une lettre avec un affranchissement T. Sachez que si vous retournez l'enveloppe avec à l'intérieur un PQ ou un petit mot pour ce que vous pensez du Front National ou de Jean-Marie Le Pen, ça fera que ça sera facturé au Front National. Donc s'il y a 1 million de personnes qui répondent, ils leur factureront 1 million d'affranchissements. Et ça sera autant qu'il sera rentré dans les comptes de campagne. Donc c'est peut-être pas inutile d'y penser. Et pour ce qui est de l'auditeur qui était un petit peu déprimé l'autre jour, qui savait pas trop comment bouger et tout, eh ben tu te prends en main, mon pote, tu vas trouver tout autour de toi, il y a des gens qui sont sur le terrain, qui se bougent le cul, ben, tu vas leur donner un coup de main, tu vas voir. Tu vas te régaler et en plus tu vas faire des bons trucs. Dans le cadre des bons trucs, le 29 février à Nice, il y a le carnaval indépendant. Voilà, c'est un truc qui bouge bien et qui pète dans tous les sens. Ciao viva, portez-vous bien et belle émission. Ciao, ciao.
J'ai envie de réagir avec un peu de retard au message d'un auditeur à propos des ateliers de la NPE. Aucun jugement sur ce qui a été dit. Je suis agent de la NPE et je crois que le débat est ailleurs. Aujourd'hui, le choix politique qui est fait, c'est le libéralisme, avec pour conséquence la fragilisation des classes moyennes et la paupérisation des plus démunis. La réponse est citoyenne, c'est le vote, c'est la solidarité, c'est l'engagement. Aujourd'hui, des femmes et des hommes, dans l'anonymat le plus total, s'engagent aux côtés des plus démunis, qu'ils soient agents de la NPE, salariés du privé ou du public, retraités, chefs d'entreprise ou que sais-je encore. C'est de cela, de temps en temps, qu'il faut parler. Merci.
J'ai un cri d'angoisse et qui pourrait se résumer en quelques lignes. Mais que fait Sarkozy quand tous ses élus UMP et ses journaleux suspects, en 2 mots, bafouent la Constitution en condamnant publiquement une décision de justice? Mais que fait Sarkozy quand Juppé avoue est une langue de pute racoleuse et une tête de cul bien léchée? Que fait Sarkozy? Bah rien, forcément, car en fin de compte, chez les UMP, il n'en sortira que plus blanchi et se présentera en sauveur aux prochaines élections présidentielles. Voilà, bienvenue dans mon cauchemar.
Oui, bonjour, ici c'est Régis, je suis un ex-ouvrier de Levers à Haubourdin, l'entreprise où travaillait Pascal qui est passé hier sur l'émission. En fait, j'appelle parce que nous, on a donc été licenciés il y a 3 ans. À l'époque, c'était la gauche qui était au gouvernement. On s'est battu pendant presque une année pour empêcher les licenciements sans y parvenir. Quand on a essayé de rencontrer Jospin sur la place de Tourcoing, On s'est fait matraquer par les CRS et la réponse qu'on avait du gouvernement de l'époque, c'était de dire qu'on pouvait rien faire contre les licenciements. Aujourd'hui, c'est la droite. La droite roule ouvertement pour les patrons, tout le monde le voit. Hein, toutes les saloperies qu'ils peuvent faire les unes derrière les autres concernant les chômeurs, les gens les plus en difficulté, ça continue. Moi, j'admire Pascal et les copains qui ont continué avec Bylor et Coventry, parce que d'abord, ils n'étaient pas préparés à tout ça, et puis ils ont dû s'adapter. Mais ce qui me fait vraiment mal au trip, c'est de voir qu'on est les uns derrière les autres à passer à la trappe. Il y a des copains de chez Le Vert qui ont retrouvé du boulot dans d'autres boîtes comme à Altadis à Lille qui aujourd'hui est en difficulté. Donc ils sont confrontés pour la deuxième fois, certains pour la troisième fois à des plans de licenciement. Et il n'y a aucune riposte sérieuse qui est organisée. Moi je me demande ce que font les directions des syndicats, comment on peut voir des salariés d'entreprise sur le pays. Il y en a quand même des centaines, ça veut dire des milliers de travailleurs qui sont confrontés à ça. Et on nous laisse tout seuls, les uns derrière les autres, à passer à la trappe. Bon, moi, j'espère qu'il y aura encore beaucoup de gars comme Pascal, beaucoup d'ouvriers qui réagiront, et puis que surtout, on saura trouver à s'unir et à agir collectivement, parce qu'il n'y a que tous ensemble qu'on pourra y arriver. Allez, salut.
Je voulais signaler que la lutte contre les pauvres continue dans nos banlieues. J'ai bien dit contre les pauvres, pas contre la pauvreté. Ainsi, le maire de Vitry appelle ce samedi à 11h, un rassemblement sur la nationale 305, à la limite de Vitry et de Choisy-le-Roi, avec pour mot d'ordre « Non aux bidonvilles », voulant obtenir l'expulsion de tous les squatteurs et les Roms qui vivent aux abords de cette nationale dans des conditions effroyables, certains sans eau, sans électricité, sans toilettes. Mais nous sommes un bon nombre de citoyens responsables qui appelons ce samedi à 11h à exprimer notre solidarité avec ces exclus en une manifestation parallèle avec des banderoles et un seul mot d'ordre, non aux expulsions, relogement d'abord. Comment peut-on imaginer des familles entières vivant déjà dans la misère avec des nouveau-nés jetés à la rue? C'est révoltant. Allez, ciao Daniel.
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis, le chômage a une histoire.
Flight number 2, arriving from New
York. En ce mois de janvier 1967, le premier ministre de l'époque, Georges Pompidou, accorde une interview à la télévision française. La France d'alors ne compte que 250 000 chômeurs, et pourtant le premier ministre s'inquiète.
Nous devons considérer l'emploi comme un problème permanent. En permanence, il y aura en France un problème de l'emploi. En permanence, on devra veiller à ce que l'emploi soit assuré aux Français.
Si un jour on atteint les 500 000 chômeurs en France, ce sera la révolution. Ainsi parlait en janvier 1967 Georges Pompidou, alors que la France en janvier 1967 ne comptait que 250 000 chômeurs.
Quand on m'a dit ça, moi qu'il fallait que je m'en aille. Oh, ça m'a fait un choc, c'est terrible.
Vous vous y attendiez ou pas?
Non, on entendait des bruits, mais de la réalité, et la réalité est bienvenue. Un beau jour, le contremaître me dit, Gabi, va falloir t'ailler au grand bureau. Oh, quoi faire? C'est fini. Tu vas rester chez toi. Oh là là. J'aurais pu avoir la camionnette pour y aller. Non, j'y étais à pied. Et je ruminais, je dis ça y est, je suis foutu. Rester à la maison, quoi faire?
Vous aviez quel âge?
57 ans et 7 mois. Quand je vois l'usine qui était, et puis l'usine d'aujourd'hui, on dirait que la guerre a passé. Où la guerre a passé, il ne reste plus rien. Il me semble que c'est pareil.
Et c'est vrai, Gilles Balbastre, que le chômage, on en a beaucoup parlé, il y a beaucoup de débats. Il y a des reportages aussi, peut-être moins de reportages que de débats sur le chômage, mais une histoire du chômage, on n'en avait pas encore.
Disons que on a tenté de rassembler des éléments qui étaient souvent disparates et qui n'étaient pas liés les uns aux autres. Il y a pu avoir effectivement des films, des documentaires, des reportages sur les dégâts du chômage, des témoignages de salariés licenciés, etc. Il y a pu avoir des propos d'hommes politiques, des débats ça, économique, c'est pas vraiment ce qu'il y a à la télévision. Il y a très peu de débats au fond économique, mais il y a eu des choses. Pas toujours, à certaines périodes. Et l'idée, ça a été aussi de construire au fond une histoire, parce que il s'était passé suffisamment de choses, ou des choses avaient suffisamment changé pour regarder cette période avec un regard, entre guillemets, modestement parlant, d'historien, entre autres, par exemple, parce que le marché du travail avait profondément changé.
Il n'y a pas de moyens plus violents de coercition des employeurs et des gouvernements contre les salariés que le chômage. Aucune répression physique, aucune troupe qui matraque, qui lance des grenades lacrymogènes et ce que vous voulez, rien n'est aussi puissant comme moyen contre la volonté tout simplement d'affirmer une dignité, d'affirmer la possibilité d'être considéré comme un être humain.
Henri Krasucki.
C'est ça la réalité des choses.
Alors, pour parler de ce travail, il y a avec nous Stéphane Beau et Michel Pialoux. Vous êtes sociologue, chacun. Vous avez publié un livre sur la classe ouvrière. Vous avez longuement travaillé sur Peugeot.
Effectivement, on a fait beaucoup d'entretiens, d'observations. On a pris le temps, finalement, de parler longuement avec des ouvriers de l'usine, avec différents types d'ouvriers. Donc, on a travaillé un peu de cette manière. Et c'est vrai, dans un moment où, du côté des sociologues, cette question du monde ouvrier était largement oubliée ou occultée. Et il nous a paru important, justement, d'aller un peu contre les discours généraux sur, notamment en termes de sujet du travail, sur cette sorte de disparition du monde ouvrier, alors que justement, dans l'usine qu'on enquêtait, on voyait qu'il y avait encore des ouvriers qui travaillaient, qui souffraient au travail, qui étaient de plus en plus usés, fatigués, et puis on s'est interrogé sur la question fondamentale à nos yeux de la succession des générations ouvrières.
Vous dites la peur sociale a changé de camp, vous allez nous dire en quoi est-ce qu'à travers ces 35 années d'histoire du chômage, pour vous, en quoi la peur a changé de camp. Et puis, Serge Halimi, que vous connaissez si vous écoutez là-bas, si j'y suis. Serge Halimi, on le rencontre de temps en temps dans cette émission, en tant que journaliste du monde diplomatique.
Il y a toute une dimension de son film qui me paraît particulièrement parlante. C'est la dimension de l'accompagnement idéologique qui a suivi ou qui a évolué de concert avec cette évolution sociale, parce qu'on se pose toujours la question de savoir d'où viennent les idées.
Ouais.
Après tout, il y a eu quand même un grand basculement idéologique des années 70 aux années 80, qui a été concomitant avec ce recul social. Alors on peut se demander s'il n'y a pas eu la volonté d'une certaine classe d'opérer une revanche sociale sur une classe ouvrière qui apparaissait trop conquérante et qu'il a fallu dompter. Je crois que Gilles Balbastre suggère dans son film que le chômage a été l'une des armes employées pour dompter la classe ouvrière qui apparaissait un peu trop menaçante pendant les années 70.
Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tous de bonheur.
Ah oui,
humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler nos bleus et nous voilà tous heureux.
Merci patron.
En attendant ce jour, pour vous prouver notre amour, nous voulons tous vous offrir un peu de notre plaisir.
Ah oui,
nous allons changer de rôle, vous irez limer la tôle, et nous nous occuperons de vos ennuis de patron.
Nous serons patrons.
Plaisir de travailler pour nous,
vous serez heureux comme un coup.
Nous serons patrons. Ce que vous avez fait pour nous,
nous le reprenons.
juste un petit aparté. Si j'ai voulu aussi que viennent Serge Halimi, Michel Pialou et Stéphane Beau, c'est parce qu'effectivement, faut faire un travail quand on est un réalisateur, c'est-à-dire au fond, qu'on ne sait pas faire grand-chose, si ce n'est réaliser des films. J'ai puisé dans leurs livres.
Et c'est pas la fausse modestie.
Non, c'est pas la fausse modestie, parce que j'ai puisé. Et c'est important de citer ces sources aussi, même quand on fait ce métier-là à la télévision. C'est j'ai puisé dans leurs livres, dans Retour sur la condition ouvrière de Michel et de Stéphane, sur Quand la gauche essayait de Serge, mais aussi dans des livres et dans des conversations avec eux, avec des gens comme Frédéric Le Baron, proche de Bourdieu, avec etc. La moelle et je dirais l'idée, l'idéologie, la façon d'analyser tout ça aussi, parce que ce ne sont pas que des archives qui s'enchaînent. Il faut aussi derrière avoir des idées. Et l'idée, c'était de montrer toutes ces paroles, des paroles politiques, des paroles économiques et des paroles aussi de salariés, de gens, du peuple qui souffrent de ces décisions, de ces prises de décision. Ce ne sont pas des mondes étrangers. Tout est imbriqué. Et le problème, c'est qu'on a tendance à jamais imbriquer pour ne pas créer d'analyse et pour ne pas créer, au fond, de réflexion. Et ces deux films, moi, j'ai voulu au bout qu'on ne regarde pas en disant, on éteint la télé en disant, qu'est-ce qu'on fait? Mais justement, ah, dis donc, qu'est-ce qu'on pourrait se battre?
Votre matériau, Gilles Balbastre, c'est la télé elle-même. C'est l'histoire de la façon dont la télé a raconté le chômage depuis cette époque.
Oui, plus ou moins. Plus ou moins, disons que effectivement, comment la télé l'a raconté ou pas raconté. Il y a aussi une autre critique qui dit, notamment dans Incorruptible, que c'est une belle histoire de la télé. Pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est 1% dans la bouillie télévisuelle qu'on a retiré. Et encore, il y a plein de documents qui ne sont pas passés à la télé. Notamment dans les 70, il y a plein de documents qui sont des films militants qui ne sont pas passés à la télé. Alors, faut pas dire que la télé a bien parlé de tout ça. La télé en a parlé, je dirais, encore heureux qu'on en ait parlé. On est dans un pays démocratique, encore heureux qu'on puisse trouver quelques archives qui parlent de tout ça. Mais je peux vous dire qu'on a trié. Et fur et à mesure qu'on s'avance dans les années 80-90, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de masse, de bouillie, je dirais, télévisuelle, parce qu'il y a un éclatement, il y a une multiplication des chaînes, et ben ça mène pas à la liberté, ça amène du bourrage de crâne. Et au fond, c'est de plus en plus difficile de trouver des documents intéressants, de trouver des documents parlants.
Serge Halimi.
Oui, l'autre chose qui est importante, me semble-t-il, c'est de ne pas toujours distinguer le vécu et le pensé. Et il est vrai que le mode habituel de la télévision, c'est de réserver le vécu aux catégories populaires qui peuvent livrer leurs émotions, et puis après, pour le penser, de s'adresser à des experts, à des intellectuels, à des hommes politiques. Souvenons-nous de la manière dont le mouvement social de novembre-décembre 95 avait été présenté à la télévision. On avait en duplex des grévistes qui étaient 60 à s'exprimer en 2 ou 3 minutes. Et puis on avait sur le plateau, plastronnant, un certain nombre d'universitaires, de sociologues que Bourdieu qualifierait de sociologues jaunes et de journalistes qui étaient là pour expliquer finalement que, vous voyez, ils sont très émouvants, mais ils comprennent pas ce qui leur arrive, quoi. On est là pour leur expliquer que l'irrationalité, ça suffit. Et là, ce qui est important dans la démarche de Gilles Balbas, c'est d'expliquer que les gens qui vivent des situations sont aussi capables de les penser. Et parfois, mieux que ceux qui ne les vivent pas et qui sont des professionnels de la pensée.
Nous demandons qu'est-ce qui va remplacer les mines. Parce qu'une mine, elle occupe d'un quelquefois 800, 900 bonhommes. Tandis que vous avez des usines qui emploient 60, 70 bonhommes. Et on se demande, qu'est-ce qu'on va faire de nos enfants?
Il n'y a rien de prévu pour les gosses. Et qui est responsable de tout ça? C'est mieux de fermer les fosses. Mais on aurait dû prévenir du boulot pour ces jeunes. On aurait dû implanter des usines tout partout. Qu'est-ce qu'on va faire? Je n'ai qu'au rat de saison, il va à l'école. Quand il va avoir l'âge de travailler, il n'y a rien pour lui.
On préfère laisser pourtant au fond des mines du charbon. Mais on dit que ça va être trop cher pour l'exploiter. Oh, on achète à l'étranger, ça va moins cher.
Attention, moi je suis chômeur, mais l'État me paye pour résoudre la crise. Et il me verse une allocation, et moi je cherche du travail, et j'en trouve pas. Et puis si j'en trouve, je lui dis pas. Et dès que je reçois l'allocation, tous les mois, je vais m'acheter Modes et Travaux. Parce que dans Modes et Travaux, il y a des patrons en papier de soie. Il n'y a rien de plus agréable que de se torcher le cul avec un patron quand on est chômeur.
Nous vivrons, et l'économie française, et les industriels et les commerçants français doivent vivre désormais dans la préoccupation permanente. Il s'agit de se dire qu'ils sont toujours menacés par la concurrence, qu'il faut toujours qu'ils fassent mieux, qu'il faut toujours qu'ils produisent à meilleur compte, qu'ils vendent la meilleure marchandise à meilleur prix, et que c'est ça la loi de la concurrence et la seule raison d'être du libéralisme. Car si ça n'est pas ça, je ne vois pas pourquoi on se livrerait à ce genre de spéculation et pourquoi on prendrait tous ces risques et tous ces dangers. Nous serons donc en risque permanent. Et le gouvernement en est parfaitement conscient. Son rôle est de diminuer ces risques parfois, mais son rôle n'est certainement pas d'inviter les gens à la paresse en leur créant de nouvelles protections.
Alors j'en viens à ce qui inaugure cette histoire donc du chômage, Gilles Balbastre, c'est cette déclaration de Georges Pompidou qui en 67 utilise le mot libéralisme, hein, dans votre, c'est le début du film quasiment, et dit désormais on sera préoccupé. Il inaugure l'instabilité.
Alors, effectivement, il y a deux déclarations, en fait. Ce sont deux interviews. Alors, pourquoi on commence en 67? Il fallait bien commencer par quelque chose. C'est pas que l'histoire commence là, hein. Enfin, faut pas non plus exagérer. L'histoire du chômage commence pas en 67. Non. Il y a deux choses qui nous ont paru intéressantes. D'abord, c'est la création de NPE par un jeune secrétaire d'État à l'emploi qui s'appelle Jacques Chirac à l'époque. Et la deuxième chose, c'est effectivement qu'on a des entretiens, hein, de Pompidou. Deux entretiens, au fond. Un premier en janvier 67, qui donne à la télévision. Il dit à partir de maintenant, l'emploi va devenir un problème permanent. Non, alors ça fait un peu visionnaire comme ça, mais au fond ça s'explique parce qu'effectivement il va avoir l'ouverture du marché commun en 68 et qui va libérer les frontières. Et le deuxième interview justement arrive quelques mois plus tard, c'est en juillet 67, et il dit notamment aux patrons, aux commerçants, etc., aux artisans, vous avez vécu dans des frontières inadmissibles, dans un protectionnisme inadmissible, il va falloir avoir peur. À partir de maintenant, vous allez vivre dans le risque permanent, tout simplement parce qu'effectivement, il va falloir ouvrir les frontières. Et derrière, pointe déjà une des notions libérales importantes, c'est parce que, au fond, le citoyen français, qui est un client avant tout, hein, puisque le libéralisme se définit, il faut satisfaire le client, c'est le client roi.
Ben oui.
Même on le dit plus roi que l'actionnaire, et ouais, on sait que c'est pas vrai, mais il faut satisfaire ce client. Et ce client, il a acheté les produits chers, au fond, parce qu'on était dans un protectionnisme inadmissible, dans une économie étatisée, au fond, entre guillemets, hein, régulée par l'État. Et maintenant, il va pouvoir, au fond, payer son produit moins cher grâce à l'ouverture des frontières. Alors, au fond, ce qui se dit pas et ce qui va être formidable, c'est que ce client roi, avant tout, il est un salarié et qu'on va lui rogner tous ses acquis et beaucoup de son salaire pour qu'il devienne un client roi, c'est-à-dire, au fond, un client qui a plus beaucoup d'argent et beaucoup d'acquis pour pouvoir consommer. Il va notamment s'endetter, en tout cas les classes les plus basses, mais ça, on le dira pas. On le dira jamais comme ça. On dira pas que le fameux client roi pour qui on fait tout, ben, il est avant tout un salarié, parce que 80 ou 85% des gens sont des salariés. Et que ce sont ses acquis, cette liberté d'être un salarié aussi, hélas, parfois, même s'il a le lien de subordination qu'il attache à son patron, d'avoir quelques acquis, d'avoir quelques droits, d'avoir quelques protections que lui a donné la mise en place d'un État-providence d'après-guerre. Et que, au fond, à ce moment-là, se joue déjà une notion très libérale. Pompidou le dit, hein, il dit, et si c'est pas ça la notion phare du libéralisme, ça ne sert à rien. Et au fond, bien avant cette idée de mondialisation, eh bien, c'est l'ouverture des frontières autour de des années 60, fin 60, je pense, qui va mettre en place certainement aussi la montée de la compétitivité du coût, la montée de réduire les coûts pour vendre soi-disant moins cher. Et au fond,
Gilles, là, on est en 1967.
C'est ça.
Pompidou s'adresse à une France dans laquelle la classe ouvrière, on dit le mot classe ouvrière, hein, c'est pas un mot honteux, c'est pas un mot pornographique, c'est pas un mot ringard à l'époque, où la classe ouvrière est puissante. Il y a des syndicats puissants, il y a des partis de gauche puissants, et c'est, est-ce que on a déjà l'amorce d'une idée pour la classe, puisqu'on est dans une époque où on parle comme ça, pour la classe que Pompidou représente, au nom de laquelle il parle, d'une peur, puisque vous dites que la peur sociale va changer de camp autour de ces 35 années, est-ce que Pompidou incarne une peur?
Oui, ben si on se réfère au cas de Sochaux, par exemple,
Michel bon, Pialou qui parle.
Cette usine que nous connaissons bien, dans ces années-là, le groupe ouvrier, on dit effectivement sur place la classe ouvrière, et c'est une expression à laquelle tout le monde recourt. Le groupe ouvrier apparaît puissant. Il apparaît surtout puissant parce qu'il est organisé autour des ouvriers professionnels. Ces ouvriers professionnels ont une conscience. ils ont des chaînes politiques en tête, ils ont des références en tête, ils agrègent autour d'eux d'autres groupes, et notamment les nouveaux ouvriers qui viennent d'arriver dans les années 60 de la campagne ou de pays lointains, l'agrégation se fait sans problème. Ils imposent leur logique et c'est eux qui donnent l'impulsion. Au fond, la question forte, c'est celle des acquis qu'ils doivent obtenir, et ils pensent que ils sont l'avant-garde, et les autres progressivement acquerront les mêmes choses, obtiendront les mêmes droits, etc. Il y a des locomotives, il y a Renault, bien sûr, qui est le phare de la classe ouvrière, mais Peugeot aussi joue un grand rôle. Et cette puissance, bon, elle va se manifester dans le conflit de 68, dans les événements de 68, c'est quand même la grande grève ouvrière, ça, 10 millions de salariés sont dans le coup, et parmi eux, les ouvriers sont le groupe largement dominant.
La grève avec occupation d'usine est adoptée à l'unanimité, moins d'une voix. Les travailleurs manuels, intellectuels et la population exigent la satisfaction de leurs revendications.
Cette période pleine d'incertitudes va finalement déboucher sur la crise de mai 68. Autant qu'une révolte étudiante, 68 est aussi avant tout une révolte ouvrière. Quelques 9 millions de salariés en grève poussent le gouvernement et le patronat à négocier au ministère des Affaires sociales, rue de Grenelle.
C'est sûr qu'à partir de ce moment-là, les classes dominantes vont avoir peur et... Bon, dans les années 68-74 sont des années très très importantes. On le voit bien dans l'automobile. Des choses importantes ont été obtenues, des concessions en 68 au niveau salaire, etc. Le droit d'avoir des délégués syndicaux dans l'entreprise, les acquis sont tout à fait importants. Mais il y a aussi un climat de combativité qui monte et qui va se traduire par de nombreuses grèves, de nombreux conflits et une forme de peur qui va exister dans la classe dominante à partir de ce moment-là.
Serge Halimi, sur la peur de la classe possédante.
Oui, il faut voir que cette puissance ouvrière, c'est pas un phénomène qu'on observe seulement en France. Évidemment, en France, il y a eu les grèves de mai 68, les plus importantes de l'histoire sociale, mais il y a eu aussi à peu près au même moment l'automne chaud italien, c'est 69. Il va y avoir quelques années plus tard la grève des mineurs au Royaume-Uni qui va aboutir à la chute d'un gouvernement conservateur qui est en quelque sorte victime d'un conflit social qu'il perd. Il y a des grèves aux États-Unis aussi à l'époque. Donc dans l'ensemble du monde occidental, il y a une montée de la contestation sociale et ça se traduit sur le plan idéologique. Souvenons-nous que François Mitterrand, quand il prend le contrôle du Parti Socialiste à Épinay en 1971, dit, et je crois que je le cite presque textuellement, « Qui ne veut pas la rupture avec le capitalisme, je le dis, ne peut pas être membre du Parti Socialiste. » Même en 1980, un an avant d'être élu président de la République, il invoquera Lénine. Et il dira « Je crois comme Lénine à la conquête du pouvoir d'État ». Quand Giscard est élu président en 1974, peu après, il va aller à Moscou et déposer une gerbe sur le mausolée de Lénine.
Et voilà, pendant ces 15 ans, qu'a-t-on fait ? Qu'a-t-on fait pour le peuple ? Qu'a-t-on fait pour les travailleurs ? Qu'a-t-on fait pour les paysans ? Qu'a-t-on fait pour les ouvriers ? Qu'a-t-on fait pour les commerçants ? Qu'a-t-on fait pour les artisans ? Qu'a-t-on fait pour les cadres ? Qu'a-t-on fait pour les maîtres des sociétés internationales ? Alors je vois qu'on a compris.
Donc vous voyez, il y a quand même un contexte idéologique qui accompagne cette montée sociale, pas seulement en France, mais à l'étranger, dont on va observer le retournement complet dans les années 80.
Alors, ce sont ces années-là aussi, par exemple, où il va avoir, parce que le patronat a peur aussi, des grandes conquêtes, des conquêtes importantes, hein, comme après-guerre. Vous avez la création du SMIC, la quatrième semaine de congés payés en 69.
On parle de quelle date, là, Gilles ?
les quatre semaines de congés payés 69, la création du SMIC 1970, la mensualisation des ouvriers 1970, l'accord sur les indemnités journalières de maternité 70, l'accord sur la formation professionnelle en 70 avec Jacques Delors. Il y a énormément de discussions entre le patronat. Et alors, à côté de ça, vous avez... Et ça calme pas les ouvriers. Ça les calme pas pour autant. Il y a des grèves importantes. Il y a la grève des joints français, du joint français en Bretagne, qui va durer plusieurs semaines. Il y a plusieurs fois des grèves, notamment à Renault, sur la condition des OS. Le taux d'absentéisme augmente à Renault de 6 à 11 %. On ne remet jamais. C'est une période où on n'a jamais autant remis en cause l'aliénation et l'exploitation du travail, notamment du travail non qualifié, peu qualifié. Il y a une vraie remise en cause aussi du travail. Il y a un très beau document, Le sang des autres, que j'ai pas pu mettre, et Michel et Stéphane le connaissent, où il y a un monologue qui dure au moins 2 ou 3 minutes d'un ouvrier qui parle de comment le travail posté à la chaîne lui détruit les mains. Et un texte, qui est un texte littéraire, où il parle qu'il ne peut plus lire, plus tourner les pages de son livre, où il ne peut plus toucher le corps de sa copine. Il y a une remise en cause comme ça, très profonde. Et au fond, et ça se passe pas qu'en France, ça se passe partout. Et effectivement, il est grand temps de les calmer.
Ah ouais, enfoiré. Ouais. Parce qu'il y a tout le monde gueule, on dit « Ouais, il y a déjà 3 millions de personnes qui réclament du travail. » C'est pas vrai. De l'argent leur suffirait.
Ces gens qui courent au grand galop en auto, métro ou vélo, vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds, mais faut reprendre le boulot. Allez tous ensemble, le travail c'est la santé.
S'il y avait 500 000 chômeurs, ce serait la révolution. Ainsi parlait Georges Pompidou dans les années 60. Eh bien, effectivement, ce fut une révolution conservatrice, la révolution néolibérale. Le film de Gilles Balbastre, Le chômage a une histoire, raconte ça, raconte ce retournement, raconte cette trahison aussi de la part des intellectuels, raconte aussi l'imposture médiatique à travers les acteurs, c'est-à-dire les salariés, les syndicalistes, les patrons, les médias, tous les protagonistes de cette histoire. Et pour parler du film de Gilles Balbastre, on est avec Serge Halimi, avec Stéphane Beau et Michel Pialoux, qui sont tous deux sociologues et qui ont publié un livre tout à fait remarquable qui s'appelle Retour sur la condition ouvrière chez Fayard. Qu'on évoque Gilles Balbastre, parce que tout ce qu'on dit sur cette époque post 68 avec ses avancées, ses exigences, la remise en question, et ça nos amis sociologues le savent, du travail lui-même. C'est là que l'an 01, par exemple, de GB, qui dit on arrête tout, on réfléchit, et c'est pas triste. Il y a toute une tendance pour dire perdre sa vie, elle a gagné. La remise en question du boulot lui-même, du travail lui-même. Ça, c'est une expression de cette époque qui semble tout à fait saugrenue aujourd'hui. On veut en avoir du boulot. Il n'est pas question de dire on veut pas travailler aujourd'hui. Hein. Et ça se traduit aussi à la télé. Nous voilà à la télé. Dans une émission dont vous donnez un extrait qui s'appelle Armes égales, c'est en octobre 70. Et c'est formidable parce que dans notre mémoire aujourd'hui, puisque Stéphane Beau dit qu'il faut bien penser ce qu'était le travail à l'époque, évidemment, par rapport à la précarité d'aujourd'hui, etc. Mais la télé de l'époque, on imagine un truc presque stalinien. Et en fait, il y a à 20h30, à Armes égales, il y a François Sérac et Georges Segui,
hein, en prime time, on disait pas encore prime time à l'époque, qui s'affrontent avec des documents extraordinaires.
Oui, alors en fait, c'est la télé des années gaulliennes, c'est Pompidou, etc. Et effectivement, c'est une télé qui est soumise à la censure. Hein, c'est connu pour ça, c'est une télé qui est soumise à la censure. Et au fond, à 20h30, parce que la classe ouvrière, et au fond, on peut dire les salariés aussi, parce que faut pas résumer qu'à la classe ouvrière, les salariés, parce que dedans, il y a les employés, il y a aussi, on disait tout à l'heure, il y a eu des grosses grèves, par exemple, des employés de banque. Hein. Ils envahissent la bourse en chantant l'international. Je veux dire, ça fait quand même, on voit moins bien maintenant des employés de banque se chanter l'international en envahissant la bourse. Et au fond, ça se traduit à la télévision. Ils sont obligés de passer ça. Et donc, il y a un débat, effectivement. Et cette émission a la particularité de faire par les invités un film de 15 à 20 minutes. Donc là, Sérac fera son film et Segui fait son film. Et c'est un film fait par un réalisateur communiste de l'ORTF, du reste, très beau, hein, en noir et blanc, un genre de plasticité à la russe, hein, c'est magnifique, on dirait un ballet sur des sidérurgistes qui enfournent un four, enfin, c'est quasiment un film de propagande aussi, et il y a des phrases d'une violence, hein, c'est dit carrément, à qui appartiennent les usines, à De Wendel, De Rothschild, etc. La deuxième question, c'est qui...
qui profite.
Non, pas qui profite tout de suite. Qui fait les richesses? Hein, ce sont les travailleurs, les salariés, nanana. Et qui profite de ces richesses? Ce sont une poignée de possédants. Et le film se termine...
De profiteurs.
et ça se termine par la phrase de Marx. Les travailleurs n'ont pas besoin des capitalistes, mais les capitalistes ont besoin des travailleurs. Et à un moment dans le débat, il y a c'est Guy qui dit entente, mais il n'y a pas d'entente possible. On n'a pas les mêmes projets communs. Mais en attendant, faut discuter, en attendant que tout change.
Une grande partie de la classe ouvrière renforce les syndicats CGT et CFDT dans un rapport de lutte des classes avec le patronat. La télévision, pourtant soumise à une censure du pouvoir politique, s'ouvre à ce radicalisme, comme dans le cas de ce « À armes égales » d'octobre 70. Le film de la CGT, programmé à 20h30, juste avant le débat entre François Sérac et Georges Segui, résume à lui seul l'état d'esprit de l'époque.
Première question. À qui appartiennent les usines? De Wendel, le baron Ampin, le baron Rothschild, Dassault, Jean Prouveau. Deuxième question. Qui crée dans ces usines, ces laboratoires, ces ateliers, la richesse? Les travailleurs. Troisième question. Qui en profite? Une poignée d'exploiteurs. Les capitalistes ne peuvent pas se passer des travailleurs. Mais les travailleurs peuvent très bien se passer des capitalistes.
S'il fallait une figure du dédain et du mépris, il faudrait garder la tête que fait François Sérac en regardant Segui.
Mais bien sûr. Mais c'est pas que, oui, mais en même temps, la peur aussi. Ouais. Parce que il y a un autre arme égale où il y a Eugène Descamps, le patron de la CFDT, et alors une autre CFDT que celle de maintenant, et Antoine Riboud, le patron de Mitterrand, le patron de Schumberger, le patron un peu de gauche, soi-disant, entre guillemets. Et je peux vous dire que c'est encore plus radical que, je l'ai pas montré ça, hein, mais c'est encore plus radical que le film de la CGT. On remet en cause la société de consommation, on remet en cause tout, à tel point que Alain Duhamel, le fameux Alain Duhamel là, qui existe encore, pose un moment à Eugène Descamps, mais tout ça, ça va se faire dans une société révolutionnaire. C'est magnifique d'entendre ça dans la bouche d'Alain Duhamel. Il est obligé de parler de société socialiste, révolutionnaire, autogestionnaire. Vous vous rendez compte ? J'ai pas pu le passer, c'est dommage, c'était savoureux, je veux dire. Pour ça, je me permets de vous le dire à votre émission. 10 ans après, il dit plus la même chose, le père Duhamel, hein, à l'heure de vérité. Là, il pérore, et c'est fini. Il peut tendre le plat au patron.
Serge Halimi.
Juste une précision sur ces émissions. Vous dites qu'elles passent en prime time, mais elles passent aussi sur une télévision française où il n'y a à l'époque que 2 chaînes.
Oui.
Ça veut dire que ce sont c'est vraiment des masses, des millions de personnes qui regardent cette émission. Ils ne regardent pas le câble, ils ne regardent pas Canal+, ils regardent ça. C'est vraiment la grande réunion de la famille, du groupe le soir. C'est pour regarder ce genre de débat et pour voir ce genre de film.
Il y a des images qui pour moi sont bouleversantes, c'est celle de Lip. L'IP 73 et l'autogestion.
Venez soutenir les travailleurs de chez les peuples. Soyez solidaires.
Au printemps de l'année 1973, un conflit éclate dans la célèbre manufacture de Montrelip à Besançon. 1300 salariés se mettent en grève pour protester contre le dépôt de bilan de leur entreprise qui menace 480 d'entre eux. Ce conflit, qui va s'étaler sur plusieurs mois, va non seulement mobiliser une région entière, mais aussi une grande partie des Français, des syndicats et des partis de gauche. Au-delà du mouvement de protestation contre les licenciements, c'est surtout la façon de mener la grève qui va retenir l'attention. Un mot est lâché, autogestion. L'heure est encore à l'espoir de changement des formes de production.
Quand on a commencé à manifester en 73, on descendait en ville, il y avait toutes les voitures qui partaient, on klaxonnait, on arrivait en ville, tout le monde regardait, tiens, voilà les LIP. Et nous, on criait, non au démantèlement, non au licenciement. Mais ce qu'on disait aussi, c'était la façon dont on s'était organisé dans l'usine, la démocratie, les commissions de travail où tout le monde s'inscrivait, c'était, LIP, c'était une vraie ruche où tout le monde travaillait, où tout le monde s'organisait à sa façon.
Effectivement, mais ça c'est rigolo de revoir ça parce que en même temps il y a un débat. Enfin, on le met juste un peu en filigrane hein, avec Rocard et Chevènement justement, on les a interviewés où l'importance de LIP. Moi, j'étais gamin, hein, donc j'avais 14 ans, c'était mes débuts d'année militante et LIP c'était formidable. Et au fond, c'est vrai que Chevènement met un petit bémol sur LIP et en même temps, enfin il met un bémol parce que c'est une autre gauche. Hein. Il y a des débats au sein de la gauche. Au fond, il n'y a pas que Chevènement, hein, Rocard aussi. Hein. On a même Nota qui nous dit qu'elle a fait sa première manif pour LIP. C'était à l'époque où elle faisait encore des manifs. Et donc effectivement, il y a une classe ouvrière qui est encore combative. Effectivement, LIP après on peut glosser, hein, on peut discuter même en termes de est-ce que c'était réaliste ou pas, mais surtout ce qu'il y a, c'est que ce sont des luttes combatives. C'est-à-dire, c'est des licenciements, il y a 400 à 500 licenciements prévus, mais face à ce licenciement, on se bat et on va proposer. Et alors, que 5 ans après, on se battra pour essayer de garder ce qui reste et pas proposer. C'est vachement différent. Donc, à la limite, sur les premiers licenciements, les premiers gros licenciements, il y a des combats à tel point que ça va se propager en France. Et il y a de vrais combats comme LIP. Hein. LIP, en deux secondes, quand même, c'est important pour ceux qui n'ont pas cette mémoire-là, c'est qu'ils vont prendre le trésor de guerre. C'est les montres, ce sont les montres. Ils vont les garder, ils vont les vendre et ils vont en fabriquer. Et ils vont pour ça faire des commissions et c'est une entreprise qui est gérée de façon autogestionnaire et ça va se propager en France. Il va y avoir des centaines de cas de petits LIP à tel point que par exemple on va montrer un film militant d'une scène de grève en Vendée qui est vachement rigolo.
C'est très beau ça.
Un genre de comédie musicale où les ouvrières chantent ah qu'est-ce qu'il est doux de travailler pour nous et on les voit en train de lire un livre, on les voit en train de se brosser les cheveux. Qu'est-ce que ça fait du bien, enfin.
La lutte des LIP marque à ce point les esprits que dans les années 73 et 74 éclatent des dizaines d'autres conflits du même type, propageant dans la France entière cette idée d'autogestion. Les ouvrières de l'usine Couzeau, en Vendée, connaîtront pendant 109 jours de grève la liberté de travailler pour elles.
Fabriquée par des ouvrières sans chef ni patron.
Un après-midi, on avait reçu des informations de LIP. Et on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas, on fabriquerait pas des chemisiers? Alors on a décidé à trouver des machines, on avait nos machines familiales.
Et depuis, on fabrique des chemisiers pile.
Travailler pour nous est agréable. Travailler pour nous, c'est nous. Faire votre chemisier, maintenant on est capable. Travailler pour nous, c'est agréable.
Stéphane Beau, Michel Pialou, alors vous observez ça en sociologue, est-ce que c'était viable cette autogestion?
ça montrait que des possibilités formidables existaient dès qu'on faisait travailler autrement. C'était un thème, et la figure de Piaget, là, qui était le militant CFDT, a vraiment été un phare de l'époque. Et des possibilités certainement existaient. C'était lié à tout un mouvement de contestation très violente de l'organisation taylorienne, super hiérarchisé. La France était le pays de l'Europe occidentale où le taylorisme avait été mis en place de la façon la plus terrible, notamment dans les usines d'automobiles, parce qu'on disposait d'une main d'œuvre venant des campagnes. À très vite, on allait faire un appel massif. Alors, à partir de 89, la progression des Maghrébins, des Portugais, des Yougoslaves, à partir de 69, voilà. Dans l'euphorie économique qui a suivi 68, elle progresse dans les usines formidablement. Dans la région parisienne, c'est 50-60% des gens qui sont des immigrés. À Peugeot, c'est 20% à ce moment-là. Après, ça va redescendre à 7-8%. Mais il y a un climat de contestation de ces formes du travail qui apparaît chez les jeunes travailleurs, qui est intense. Alors, effectivement, ce qu'on va reprocher aux militants de l'IP, c'est d'être aveugle sur la compétition internationale, parce que ce qui est en cause, c'est
que Chevènement rappelle dans le film de Balbastre. Hein.
Voilà.
Mais il n'a pas tort non plus. Chevènement refroidit l'enthousiasme.
Ouais, mais l'image est belle, perspective. Piaget a failli être candidat. On voulait que Piaget soit candidat aux élections présidentielles 74. Vous voyez la différence de l'époque. À l'époque, on voulait Piaget. Maintenant, on a ma mère. Vous voyez, donc, effectivement, c'est quand même une autre époque. C'est, on avait un ouvrier représentant une idée de changement du travail. Maintenant, on a un journaliste qui veut se faire mousser. C'est quand même, effectivement, ce sont des époques très différentes.
Piaget se bat toujours, milite toujours
assez
contre le chemin. Sacha Limite.
Oui, sur le basculement, Gilles Balbastre rappelait tout à l'heure que 400 licenciements en 1973, ça avait provoqué un mouvement social de très grande ampleur, une solidarité nationale, une explosion de créativité. 10 ans plus tard, en 1984, il y a 300 000 chômeurs de plus dans l'année. Passivité, désespoir, un discours de la soumission et une véritable pédagogie du renoncement. On voit à travers ces deux exemples, 400 licenciements dans un cas, 300 000 chômeurs de plus dans l'autre, le changement d'époque.
C'est sûr qu'auparavant, il y a 20 ans de ça, on embauchait directement au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines. Mais bon, maintenant, à l'heure actuelle, aujourd'hui, ça n'existe plus, je pense. Pour rentrer le soir, peut-être que demain, j'arrêterai mon contrat.
Sifflez en travaillant, c'est un bon stimulant qui vous rend le cœur plus vaillant. Sifflez un air joyeux, vous vous sentirez mieux, vous serez bien plus courageux pour chasser les soucis, les tracas, les ennuis et voir tout sous un jour brillant. Suivez ce remède excellent, sifflez en travaillant pour vivre heureux, toujours content, sifflez en travaillant.
Bon, c'est le stress de l'intérim, quoi. C'est pas dire vraiment que ce soit vraiment un ouvrier, parce que bon... Vous allez travailler dans une entreprise, comme demain vous allez nettoyer les trottoirs, comme après-demain vous allez faire autre chose. Quand vous rentrez dans l'intérim, c'est plus un ouvrier, de toute façon c'est clair.
Sifflez en travaillant, c'est un bon stimulant qui vous rend le cœur plus vaillant. Sifflez un air joyeux, vous vous sentirez mieux, vous serez bien plus courageux pour chasser les soucis, les tracas, les ennuis et voir tout sous un jour brillant. Suivez ce remède excellent, sifflez en travaillant pour vivre heureux, toujours content, sifflez en travaillant.
Et voilà, ça s'appelle finir sur une note d'espoir. C'était Le chômage a une histoire. Première partie, deuxième partie demain. Un film de Gilles Balbastre avec autour de ce film Serge Halimi du Monde diplomatique et Stéphane Beau et Michel Pialoux, nos amis sociologues qui sont également les auteurs d'un bouquin chez Fayard qui s'appelle Violences urbaines, violences sociales. Voilà, on se retrouve donc demain, deuxième partie. Technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Olivier Leroux. Le répondeur, c'est Christophe Imbert qui en a la charge. Je vous rappelle le numéro du répondeur, c'est le 0156 40 37 37. 0156 40 37 37. Choix musicaux, c'est toujours Coy Nguyen. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale.